Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce quatrième cours. Comme dans les cours précédents, je vais vous faire un bref résumé de ce qui a été dit la semaine passée. Je vais revenir sur deux, trois images sur lesquelles je suis passé un peu vite. Et je tiens vraiment à les présenter de façon un peu plus détaillée. Et puis, on va parler de ces fameux mini-cerveaux, ces organoïdes qui ont beaucoup fait parler d'eux, en fait, cette façon de reconstruire un cerveau, on verra ce qu'il en est, hein, dans un tube. Comment le fait-on? Quel type de recherche fondamentale peut-on faire avec? Recherche médicale. Et puis, à la fin du cours, je mentionnerai quelques points qui ont été soulevés sur le côté qui touche à l'éthique, en fait, de faire pousser ces cerveaux en culture, qui sont des points qui, vous le verrez, sont extrêmement intéressants, en fait. Pas des discussions classiques sur l'éthique, etc., mais des points précis qui posent des questions vraiment intéressantes. Alors, la semaine passée, je vous avais fait un rappel sur le statut de ces cellules ES-IPS. J'espère que c'est bien intégré, parce qu'on va voir aujourd'hui qu'en fait, ces mini-cerveaux démarrent à partir de ces cellules ES, embryonnaire souche humaine. Je vous avais fait une sorte d'état des lieux des organoïdes humains. À partir de quel tissu peut-on en produire? Vous retrouvez tout ça sur le site du collège, sur les documents que j'ai déposés. J'avais pris comme exemple un travail magnifique du groupe de Bob Johnston aux États-Unis, qui vraiment ce groupe a poussé le développement de ces organoïdes de rétine jusqu'à un point qui n'avait pas été atteint jusqu'à présent. Et puis, on a passé une grande partie du cours à discuter des organoïdes intestinaux. Et souvenez-vous peut-être, j'avais commencé le cours en vous parlant des travaux de Hans Clevers, en disant qu'il fallait absolument partir de cellules souches qui étaient positives pour un gène particulier qui s'appelle LGR5. Et puis, au long du cours, je vous avais mentionné que finalement, des travaux plus récents montrent qu'on peut également produire des morceaux d'intestin en culture en partant de cellules qui ne sont pas LGR5 positives. Et j'avais fait ça intentionnellement, en fait, pour vous montrer que les choses avancent rapidement dans ce domaine et que rien n'est vraiment fixé. Souvent, on revient un peu sur les dogmes. Et en fin de cours de la semaine passée, je vous disais que même une étude très récente montre qu'en fait, pratiquement n'importe quelle cellule de l'épithélium intestinal peut être à la source de tous les types cellulaires, pour autant que cette cellule soit placée dans le bon environnement. Puis on a parlé un peu de pathologie, c'est là-dessus que j'aimerais revenir, en particulier de l'épithélium de Barrett. Alors avant de passer à ces mini-cerveaux, laissez-moi passer quelques minutes pour revenir sur ces organoïdes, qui sont donc des organoïdes de type intestinal du côlon. C'est un type d'épithélium qui est très différent de celui qu'on trouve dans l'intestin grêle, qui est celui à propos duquel j'ai passé toute la dernière séance. Donc c'est un épithélium qui n'a pas de villosité, en fait, qui a des cryptes. Et évidemment, le côlon est d'une très grande importance du point de vue pathologique, puisque, comme vous le savez, c'est une des sources des cancers les plus présents dans la société à partir d'un certain âge. Donc, à partir d'une biopsie, on peut dériver des cryptes. Alors, une biopsie, je vous rappelle que les biopsies peuvent se faire actuellement directement sur une coloscopie. Colonoscopie, on peut, à l'examen, en voyant quelque chose d'anormal, faire une résection immédiate, avoir une biopsie, et à partir de cette biopsie, on peut mettre certaines cellules en culture. Et vous voyez ici qu'il est écrit qu'à partir de 3000 cribes, donc un tout petit morceau de côlon, on peut très rapidement, d'une façon logarithmique, obtenir 1000 fois plus en un mois. Donc on peut très rapidement obtenir une grande quantité de ce matériel à partir d'une très petite biopsie de côlon. À partir de cette biopsie, bien entendu, de ce matériel, on peut l'utiliser comme outil pour la recherche fondamentale, mais bien entendu, on peut l'utiliser comme outil diagnostique. Si on n'est pas sûr d'un diagnostic, on dispose de beaucoup de matériel, on peut dès lors faire des analyses complémentaires. Et puis, on peut l'utiliser comme outil thérapeutique, par exemple, pour voir la réaction à certaines molécules, pour voir si en mettant tel ou tel traitement dessus, on a une réponse qui permettrait déjà d'indiquer, de donner quelques indications sur le traitement du patient. Donc, cette publication du groupe de Hans Clevers, qui a montré, qui a réussi à dériver ces cryptes du côlon, dans cette publication il est écrit, ces conditions permettent également de dériver cancer du côlon, par exemple des adénomes de souris et des adénocarcinomes humains, donc il est possible sur une biopsie de tissu cancéreux de développer ces organoïdes, donc on a affaire à des organoïdes pathologiques. C'est important, je pense que c'est la première fois qu'on en parle, c'est-à-dire qu'on peut dériver des organoïdes de tissus normaux, mais on peut aussi dériver ces structures de tissus pathologiques. Et de la même façon, on peut dériver des organoïdes de ce fameux œsophage de Barrett, dont je vous parlais la semaine passée en fin de cours, qui est donc un œsophage, donc la partie qui est au-dessus de l'estomac, qui est parfois colonisée par des bandelettes d'intestin, de tissu intestinal, qui ressemblent en fait à de l'intestin grêle. C'est de l'épithélium avec des villosités qui remontent dans l'œsophage. Et dans cette publication, en utilisant des conditions particulières, alors je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais c'est toujours ce mélange, un peu cette cuisine hein, d'inhibiteurs, des MAP kinases en présence de nicotinamide, cette vitamine B, etc., etc. Bref, en utilisant le bon mélange, ces auteurs arrivent à dériver des beaux organoïdes, en fait, à partir du côlon, dans ce cas-là, sur lequel il peut faire des études complémentaires. Ces organoïdes, en fait, là encore, expriment pratiquement tous les marqueurs de type cellulaire dont on a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir dessus, c'est ces couleurs, hein, donc des marqueurs qui sont spécifiques aux entérocytes, des marqueurs qui sont spécifiques aux cellules neuroendocrines, entéro-endocrines, etc., etc. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette image, en fait, c'est que vous voyez qu'en rajoutant à la culture une molécule qui s'appelle DBZ et qui est en fait du dibenzazépine, qui est un inhibiteur de la voie de signalisation Notch. Vous vous souvenez, on a parlé de la voie Notch. La voie Notch, c'est une des nombreuses façons, encore une fois, qu'ont les cellules de se parler. Ce n'est pas en envoyant une molécule, c'est en ayant des molécules complémentaires, en quelque sorte, à leur surface. Donc, il faut que les cellules se touchent. Et il y a un signal qui passe par un système qui est Notch et ses ligands. Et vous voyez, quand on inhibe le passage de cette information, en utilisant cette molécule, pratiquement l'ensemble de ces cellules se mettent à fabriquer de la mucine, autrement dit, elles sont transformées en cellules à gobelet, en goblet cells. Donc ces cellules se différencient. C'est à peu près exactement ce qu'on souhaite faire quand on a affaire avec une tumeur, c'est-à-dire d'essayer de différencier ces cellules pour qu'elles arrêtent de proliférer. Et donc, c'est le type d'expérience qui fait espérer que peut-être un jour, ce type d'information pourrait être transféré aux patients après, justement, examen de ces biopsies, de voir la réponse à ce genre d'inhibiteur, et puis au cas où vraiment il y aurait une réponse intéressante, d'essayer de passer à un essai clinique. Deuxième exemple sur lequel je voulais revenir, c'est donc ce fameux œsophage de Barrett avec ses bandelettes d'épithélium. Ça, c'est une vue du haut, hein, à l'entrée de l'estomac. Et lorsque l'on produit des organoïdes à partir de cet épithélium, on peut, en rajoutant un peu de... Pour ce faire, il faut en fait rajouter un peu de FGF10, une cytokine particulière, au mélange, encore une fois, un mélange particulier avec un peu de facteur de croissance, et on a magnifiques organoïdes ici, qui commencent à faire des cryptes, etc. Et ce que l'on peut faire, c'est donc sectionner ces organoïdes. C'est ce que vous voyez sur la colonne de gauche. Et vous voyez que ces cellules sont très denses. Elles ont une coloration à un marqueur qui s'appelle KI67, qui est en fait une protéine qui indique un état de prolifération intense. Ces cellules qui sont marquées avec ce signe KI67 sont des cellules qui prolifèrent. Et vous voyez que en coupant cet organoïde dérivé de l'épithélium de Barrett, vous avez plein de ces cellules tout autour, alors qu'en fait, lorsque vous traitez ces organoïdes avec cet inhibiteur de Notch, DBZ, vous voyez que ces cellules tendent à disparaître. On a des cellules qui sont un peu denses, mais beaucoup moins qu'elles ne le sont ici. Et en fait, lorsque l'on fait une coloration pour les cellules de Goblet, on voit qu'il n'y en a pratiquement pas dans cet organoïde dérivé de l'épithélium de Barrett, alors que si vous le traitez avec le DBZ, vous voyez que beaucoup de ces cellules ici, maintenant, vont être transformées en cellules de Goblet et vont commencer à sécréter du mucus. D'accord ? Donc là encore, peut-être une possibilité d'induire une différenciation sur un épithélium qui est tout de même métaplasique, c'est-à-dire qui est en état précancéreux, qui n'est pas vraiment cancéreux, mais dont le risque est grand qu'un jour ou l'autre, cet épithélium se transforme en cancer. À partir de là, est-ce que l'on pourrait trouver un aérosol, par exemple, qui pourrait diffuser un inhibiteur, etc. Donc, tout ça sont des possibilités à explorer. Voilà, c'est là-dessus que je voulais revenir, ce qui concerne les organoïdes intestinaux qu'on va maintenant abandonner pour passer à ces mini-cerveaux. Ces mini-cerveaux, ils ont été largement développés par un laboratoire qui est le laboratoire de Jürgen Knoblich en Autriche. Et ils ont été développés par une chercheuse qui s'appelle Madeleine Lancaster, qui est maintenant à un groupe de recherche à Cambridge, en Angleterre. Et je vais donc vous parler de publications qui sortent de ces deux groupes de recherche. Alors, la publication initiale, c'est celle-ci. C'était un article publié dans Nature en 2013, qui évidemment a fait beaucoup de bruit, qui donc décrivait la possibilité de dériver des organoïdes ressemblant en quelque sorte à des cerveaux. Alors la recette n'est pas très différente de ce qu'on a déjà vu pour d'autres organoïdes. Au démarrage, quelques milliers de cellules ES humaines. Là, on parle maintenant d'organoïdes humains. Ce sont des cellules dérivées, souvenez-vous, d'embryons humains d'avant l'implantation, poussées en culture. On isole ces cellules souches qui sont donc capables de tout faire sauf la couche de trophectoderme pour avoir une culture de cellules ES. Entre 4000, 5000, 8000, on le verra tout à l'heure, des comparaisons, cellules sont mises ensemble et elles vont faire ce qu'on appelle des sphères, vont donc se coller ensemble pour faire une sorte de boule de cellules, une sphère de cellules. Au bout de 6 jours, ces sphères vont ressembler un peu à ça, on appelle ça des corps embryoïdes, encore que ce n'est pas vraiment la bonne définition. On va les changer de milieu, on va les mettre dans un milieu qui promeut la différenciation neuronale. Et puis au bout de 2 semaines, ces sphères vont être mécaniquement introduites dans un petit morceau de matrigel. Souvenez-vous, le matrigel, cette structure dérivée de la cuisson de queue de rongeur. Cuisson de queue de rongeur qui produit une sorte de gel qui est très organique et qui contient des tas de molécules intéressantes pour faire pousser, souvenez-vous de la comparaison, matrigel, hydrogel, etc. Donc on introduit ces sphères dans des petites gouttes de matrigel et puis, après un certain temps, l'ensemble est mis dans un bioréacteur. C'est là probablement un des secrets de l'opération. Un bioréacteur, c'est simplement un système de culture qui est en suspension avec un système de rotation, donc il y a une bonne aération. On peut contrôler la température, on peut contrôler l'atmosphère par une entrée et une sortie. Donc on peut contrôler le pH très précisément, l'acidité du milieu. Et on laisse donc ces organoïdes se développer dans ce bioréacteur. Et vous voyez qu'au bout de 3-4 semaines, commencent à apparaître des structures qui font penser à des structures de cerveau. Alors, j'ai résumé ici les points importants de la méthodologie. Je pense que c'est toujours important de regarder un peu en détail. Vous voyez que dans le papier initial, les auteurs démarraient avec 4500 cellules ES, ce qui évidemment est ridiculement peu lorsque vous pensez que dans une boîte de cette taille, dans une boîte de pétri, on peut avoir facilement 1 million de cellules ES. Donc il y a vraiment peu de limitations à cet égard. Le cocktail habituel, un peu de facteurs de croissance, EGF, des inhibiteurs, des kinases, dans ce cas particulier des rho-kinases, un peu d'héparine, qui est en fait un cofacteur qui promeut l'action de FGF. Donc tout ça, c'est encore une fois un peu de cuisine pour essayer de mettre ces cellules dans les meilleures conditions possibles. De l'insuline, curieusement, rajout d'insuline. Alors, pourquoi, je n'ai pas exactement compris, mais peut-être savez-vous qu'il y a plusieurs protéines chez nous qui sont ce qu'on appelle des insuline-like protéines, qui ressemblent beaucoup à l'insuline et qui sont des facteurs de croissance absolument essentiels. Donc, peut-être utilisent-ils l'insuline pour mimer cet effet. Alors, quand vous faites tout ça, ben voilà, vous obtenez cette structure qui est absolument remarquable, qui est la photo qu'on a vue un peu partout. Et vous voyez que cette structure, c'est très énervant. Vous voyez que cette structure contient des couches cellulaires qui récapitulent plus ou moins parfaitement des structures, dans ce cas particulier, des structures corticales. On a formation de tissu neuroépithélial avec des cavités qui contiennent du fluide. On a donc affaire à une morphologie extrêmement complexe. Vous le voyez par vous-même, sans être neuroanatomiste, on voit qu'il y a énormément de régions différentes, avec des structures différentes, des types d'épithélia différents. Et on va le voir tout à l'heure quand on commence à regarder l'expression des gènes. On va voir qu'effectivement, on a des régions extrêmement différentes. De façon plus importante, on a des cellules qui correspondent à des stades de croissance différents, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cellules progénitrices, donc des cellules souches qui sont proches généralement des zones ventriculaires, et puis on a des neurones, des vrais neurones, qui, comme on le verra tout à l'heure, sont même capables de fonctionner de façon électrique. Donc ce sont des structures qui vont même jusqu'à produire, comme vous le voyez ici, des cellules pigmentées. C'est de la rétine, en fait. Parfois, une rétine va sortir. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient là au deuxième cours, je pense qu'on peut comprendre pourquoi une rétine peut soudainement apparaître. Parce qu'il y a tout ce jeu d'interaction entre ces différents tissus qui fait que induction, 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 et on va avoir démarrage, la formation d'une rétine. Lorsque l'on regarde la distribution de la N-cadérine, c'est une molécule qui est utilisée pour coller les cellules ensemble, une fois de plus. Eh bien, on voit que lorsque vous cultivez ces objets biologiques sans matrigel, vous allez avoir une distribution de la N-cadérine qui est fragmentaire, des petites vésicules, alors que quand vous cultivez ces objets en matrigel, vous avez une distribution de la N-cadérine qui est parfaite, qui indique en fait l'existence d'une vésicule. Là, vous voyez en rouge, c'est une coloration avec un gène qui s'appelle SOX2, qui est un gène qui est très spécifique pour des cellules progéniteurs. C'est pour ça que vous le voyez, qui entoure ces cavités, donc dans des zones qui ressemblent beaucoup aux zones ventriculaires. Donc c'est là où les cellules se multiplient, c'est là que se trouvent les cellules souches, les cellules progénitrices des neurones. Les neurones vont naître ici, et puis ils vont migrer à la périphérie, comme c'est le cas dans notre cerveau, donc migrer de façon radiale à la périphérie, et en migrant, et qui vont se différencier en neurones avec ce marqueur TUJ1, ce marqueur vert. À partir de là, ces auteurs ont utilisé vraiment une batterie très large de marqueurs moléculaires pour essayer d'identifier ces cellules. Que trouve-t-on à l'intérieur de ces organoïdes ? Et je vous montre un exemple ici qui est assez intéressant. Ces petites bandes que vous voyez là, en fait, sont des quantifications de l'ARN. C'est ce qu'on appelle une réaction en PCR. Donc c'est une façon d'aller repêcher des quantités d'ARN qui sont très faibles, qui seraient peut-être même pas visibles en utilisant cette technologie-là. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on amplifie un signal. Et vous voyez que si on utilise des marqueurs comme par exemple le gène FOXG1 ou SIX3, qui sont des gènes qui généralement sont exprimés fortement dans le cerveau antérieur, le forebrain. Eh bien, vous voyez qu'on va trouver l'expression de ces gènes dans les parties qui ressemblent à des parties forebrain, par exemple, qui sont marquées par PAX6. Vous voyez là ce gène en rouge. Sur ce morceau d'organoïde, vous voyez que cette partie gauche est marquée en rouge par un gène qui normalement indique cerveau antérieur. Et si on utilise un gène qui est typique du cerveau postérieur, du rhombencéphale, donc du haut de la moelle épinière, en fait, des parties du cerveau les plus postérieures, c'est un gène qu'on appelle CROX20, et vous voyez qu'il va marquer cette partie-là. En fait. Donc on a dans ces organoïdes des parties différentes qui, d'une façon ou d'une autre, récapitulent en fait, l'opposition entre un cerveau postérieur et un cerveau antérieur. Donc il semble que ces organoïdes présentent des architectures qui sont distinctes. Alors évidemment, une des critiques que l'on peut faire à ce genre d'études, mais c'est ce dont je vous parle depuis maintenant 4 semaines, c'est que on détermine toujours un type cellulaire par l'expression de marqueurs. Donc ça, c'est le présupposé qu'on doit faire. C'est la façon, on va dire, voilà, ce sont des cellules du cerveau antérieur parce que on observe l'expression de quelques gènes qui normalement sont exprimés dans le cerveau antérieur. C'est un présupposé qu'on doit faire. On n'a pas d'autre façon de le faire, en fait. Ici, vous voyez l'expression d'un gène qui s'appelle FOXG1, c'est donc ce gène-là. Vous voyez cette expression magnifique qui ressemble vraiment à une structure de cerveau antérieur. Alors, on va une étape plus loin, et en fait, après avoir déterminé qu'il y avait des grandes régions du cerveau qui étaient représentées dans ces organoïdes, ces auteurs se sont dit, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail ? Est-ce que l'on va trouver des sous-régions, comme on en trouve dans notre cerveau ? Et donc, ils utilisent toute une batterie de nouveaux gènes qui, eux, sont caractéristiques de ces sous-régions. Alors, une des sous-régions que vous connaissez bien, c'est évidemment l'hippocampe, donc les hippocampes, qui, comme vous le savez, font partie de notre système limbique. C'est une région, ce sont des neurones qui, en quelque sorte, sont utilisés pour consolider notre mémoire court terme en mémoire long terme. C'est une région qui est très fortement attaquée dans la maladie d'Alzheimer, cette fameuse région d'hippocampe, vous voyez là. Et cette région de l'hippocampe, chez l'adulte normal, exprime un certain nombre de gènes spécifiques. Et lorsqu'on regarde si ces gènes sont exprimés dans ces organoïdes, effectivement, on trouve des régions, alors ce gène FZD9, qui ressemble vraiment à des structures d'hippocampe. Donc il semble que ces mini-cerveaux contiennent, alors peut-être pas de l'hippocampe, mais contiennent des cellules qui, sous certains aspects, ressemblent à des cellules d'hippocampe. Une autre région extrêmement intéressante, c'est évidemment le cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, on en parle beaucoup parce que c'est cette région qui a une fonction cognitive qui permet, par exemple, les prises de décision. Quand vous êtes en conflit entre des possibilités, vous anticipez, vous essayez de projeter sur le futur, ce qui pourrait arriver en prenant le cortex préfrontal qui travaille. Alors ce cortex, normalement, il exprime un gène très spécifique qui s'appelle AUTS2. Et vous voyez qu'une partie de cette grande région qui ressemble à une région corticale sous-exprime ces neurones ici, positif pour AUTS2. Donc il semble, encore une fois, que ces mini-cerveaux soient capables de générer des types cellulaires qui ressemblent vraiment aux types cellulaires qu'on a dans notre cerveau. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment affaire à un précortex frontal ? Là encore, c'est la même question que pour l'hippocampe. Mais ces cellules semblent être là. Cortex dorsal, expression très forte de ce gène bien connu, EMX1, vous voyez ici. On a des interneurones corticaux très importants, ce sont des neurones qui font les liens entre les régions corticales pour que l'ensemble fonctionne correctement. On a ici l'expression d'un gène TTR qui est en fait un gène qui est exprimé sélectivement dans le plexus choroïde, qui est quand même une structure très différenciée de notre cerveau. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Donc il semble vraiment que ces organoïdes soient capables de produire un nombre de types cellulaires tout à fait étonnant, et qui en plus rentrent dans une architecture globale qui n'est pas si mal. On n'est pas en présence d'une boule de cellules avec des cellules un peu positives partout. Non, non, on est en présence d'une architecture qui est relativement bien conservée, avec des endroits spécifiques qui ressemblent à des régions spécifiques de notre cerveau. Ensuite, ces auteurs regardent la production et la migration des neurones corticaux. Effectivement, on voit ces différents types de neurones dans des régions différentes, mais est-ce qu'ils sont produits de la même façon qu'ils sont produits pendant le développement de notre cerveau ? Et vous voyez ici, encore une fois, une vésicule, et puis dans la région ventriculaire ici, cette coloration très rouge qui correspond à ce gène PAX6, qui est un gène dont la fonction, qui est un gène qui est associé à l'état souche de ces cellules progénitrices des neurones, qu'on appelle les cellules RG, pour radial glial cells, okay, c'est les RG cells, qui sont vraiment les cellules souches qui vont donner naissance à tous ces neurones corticaux. Ces neurones corticaux, quand ils se différencient encore une fois, expriment ce marqueur TUJ1. Et donc vous voyez qu'on a une distribution dans cette structure qui est une très bonne distribution, avec des neurones positifs pour des cellules positives pour PAX6 qui vont partir migrer dans cette région-là, qui vont arrêter d'exprimer PAX6 et qui vont exprimer des marqueurs de neurones différenciés. C'est exactement ce qui se passe dans une production de neurones classique dans notre cerveau. Donc on a des cellules souches qui sont positives pour PAX6. Ces cellules vont se diviser à la surface apicale de la zone ventriculaire, donc cette zone qui est à la frontière entre ce ventricule et le tissu. Vous les voyez là. Et puis ensuite, on va avoir soit migration de ces neurones dans les couches corticales, soit des cellules progénitrices qui vont s'arrêter dans une couche intermédiaire qu'on appelle la couche sous-ventriculaire, subventricular zone. Donc c'est les deux destins, en quelque sorte, que peut prendre un neurone qui va partir de la couche ventriculaire, soit il va migrer, atteindre la périphérie, se différencier en neurone ci, en neurone ça, soit s'arrêter dans une région intermédiaire, dans la couche ventriculaire, pour attendre des temps meilleurs pour ensuite pouvoir se différencier. Vous voyez ici en fait un time-lapse, donc ce sont donc des images qui sont sorties d'un film. Le temps est indiqué en heures-minutes, donc la dernière image ici est au bout de 7h20. Et ce que vous voyez là, en fait, vous suivez le trajet d'un neurone qui est sorti de la zone ventriculaire, donc qui est parti d'ici, et puis qui migre dans les zones externes, où il va prendre sa fonction. Et vous voyez que ce neurone, tranquillement, monte. Au bout de 7h20, il en est ici. Je vous montrerai une image tout à l'heure qui est encore plus convaincante. Alors la question, évidemment, c'est ces neurones, est-ce qu'ils peuvent fonctionner ? Est-ce qu'ils ont une activité électrique ? Est-ce que d'une façon ou d'une autre ? Ou bien est-ce qu'ils sont simplement là à essayer de survivre ? Et en fait, en utilisant des technologies assez compliquées, on peut faire ce qu'on appelle de l'imagerie de... On peut vraiment faire de l'imagerie des flux de calcium, en fait. Et ce que vous voyez là, c'est les oscillations calciques qui rentrent et qui sortent. Donc c'est en fait des canaux ioniques, hein, puisque vous savez que ces neurones fonctionnent en grande partie grâce à des canaux ioniques. Et donc ce qu'on peut voir, c'est les flux de ces canaux, neurone par neurone. Et vous voyez qu'au sein de ces organoïdes, eh bien, ces flux calciques sont relativement normaux. Vous avez ici ces profils qui ressemblent à des profils d'oscillations calciques classiques. Ce sont des oscillations spontanées. Évidemment, il y a du calcium dans le milieu. Donc ces neurones fonctionnent, ou peuvent fonctionner. En tout cas, ils oscillent. Et ce que vous voyez sur la quatrième partie ici, c'est en fait un traitement de ces organoïdes avec du glutamate. Alors le glutamate, c'est un neurotransmetteur, c'est donc une molécule qui est une des molécules qui est utilisée par notre système nerveux pour transmettre les informations. C'est ce qu'on appelle le système glutamatergique. C'est un excitateur. C'est un excitateur relativement ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il travaille dans énormément d'endroits différents et qui agit par l'intermédiaire de canaux ioniques, notamment ce fameux récepteur qui est un canal ionique, en fait, qu'on appelle le NMDA, peut-être en avez-vous entendu parler, puisque c'est un récepteur qui est impliqué dans très nombreuses maladies psychiatriques, en fait. Et donc, vous voyez qu'en rajoutant du glutamate, on augmente la fréquence de ces pics. Donc, en fait, on récapitule une activité excitatrice qui est l'activité normale du glutamate dans le système nerveux central. Alors, évidemment, c'est une approche assez brutal, hein, on rajoute du glutamate sur un organoïde. Mais je dirais que le résultat qu'on obtient, en tout cas, ne va pas à l'encontre du fait que ces neurones semblent fonctionner de façon relativement normale. Et puis on peut faire l'expérience inverse, qui est d'utiliser un inhibiteur. Et dans ce cas particulier, les auteurs utilisent de la tétrodotoxine. Alors la tétrodotoxine, si d'aventure vous êtes allé au Japon et que vous aimez le sashimi, vous avez probablement entendu parler de la tétrodotoxine. C'est donc cette toxine extrêmement active que l'on trouve dans le tétraodon, qui est le poisson pufferfish, hein, tétraodon, tétrodotoxine, et qui est cette toxine qui est tellement active que les cuisiniers doivent avoir un certificat particulier pour vous servir ce poisson. C'est une toxine qui simplement bloque les canaux ioniques, généralement les canaux ioniques qui dépendent du sodium. Et bien, vous voyez que lorsque l'on rajoute de la tétrodotoxine, on termine en fait ces oscillations spontanées. Donc il semble, ce n'est pas un résultat qui en soi est totalement surprenant, mais encore une fois, il semble que ces neurones, au sein de ces organoïdes, sont capables à la fois de répondre à des stimuli positifs et à des stimuli négatifs. Une fois cette structure, une fois cette architecture déterminée, évidemment, la question que se posent ces auteurs, c'est mais comment est-ce qu'on peut produire cet organoïde? Comment est-ce qu'on peut organiser cette structure? Qu'on ait des cellules qui se différencient à gauche, à droite, bien, mais comment peut-on passer dans cette auto-organisation qu'on a beaucoup discuté dans les deux premiers cours? Comment peut-on produire les régions qui vont organiser ces structures, qui sont quand même extraordinairement complexes? Et donc, publier cette étude supplémentaire dans le journal de Lembo, ils disent, voilà, nous nous intéressons aux régions du cerveau antérieur et démontrons la présence des régions ventrales et dorsales. Alors, ventrale, dorsale, si vous coupez le cerveau, vous faites une section comme ça, vous avez la région dorsale, la région ventrale. Voilà. Alors, nous démontrons la présence dans ces cerveaux, mini-cerveaux, de centres organisateurs qui expriment les facteurs qui sécrètent, qui expriment des facteurs qui sont sécrétés et dont on sait que dans les cas normaux, ils sont capables d'organiser les structures du cerveau. Donc c'est une étape supplémentaire, c'est-à-dire on connaît relativement bien dans le développement du cerveau des vertébrés quelles sont les régions très importantes pour organiser les sous-régions. Donc la question que se posent ces auteurs, c'est ces régions importantes, est-ce qu'elles existent dans nos organoïdes? Est-ce qu'on peut les voir? Alors ces régions importantes, il y en a, ils en regardent deux principalement, qu'on appelle l'ourlet cortical et l'anti-ourlet cortical. Je vais vous montrer un peu ce que c'est dans les prochaines images. Mais vous voyez ici une section, une demi-section, vous avez l'autre demi-section ici, d'un cerveau avec la partie dorsale, la partie ventrale. Et donc, ce qui est illustré ici, c'est que dans ces organoïdes, on a une différence vraiment patente entre cette région dorsale et cette région ventrale. Ces organoïdes sont capables de s'organiser en secteur dorsal et en secteur ventral. Le secteur dorsal, il exprime par exemple ce gène PAX6, cette fois il est en bleu, et puis ces neurones TBR2, alors que la région ventrale exprime d'autres gènes, en particulier ce gène DLX ou NKX2.1 que vous voyez ici en vert. GSX2. Et en fait, l'idée de cette image, c'est que vous voyez que dans les trois images du haut, vous avez positif, positif, négatif. C'est un artefact ici, écrit dans le papier que c'est un artefact. Donc vous avez une région qui exprime très fortement ces deux marqueurs qui sont des marqueurs dorsaux, mais qui n'expriment pas ce marqueur ventral. Inversement, quand vous regardez dans cette partie ici, vous avez beaucoup moins d'expression de ces, ou pas du tout d'expression de ces marqueurs dorsaux et une grande expression de ces marqueurs ventraux. Donc ça veut dire simplement que ces organoïdes, quand vous les regardez, vous pouvez les orienter et dire, voilà, ça c'est, vous pouvez avec une pipette, vous pouvez les orienter en mettant la partie dorsale en haut et la partie ventrale en bas. Okay. Et la question, c'est qui organise ? Qui organise ça ? Alors, voilà. Et on sait, en fait, que pour avoir cette organisation dans le cas normal, on a besoin essentiellement de deux petits endroits. Encore une fois, c'est une demi-section ici, de deux petits endroits que vous voyez là. Un qui va s'appeler l'ourlet cortical, cortical helm. Traduction française pas vraiment fixée. Certains de mes collègues m'ont dit ourlet cortical, c'est le cortical hem. Et ici, le anti-hem ou l'anti-ourlet cortical. Et en fait, ce sont deux sortes de centres de contrôle qui ont la capacité, les cellules dans ces centres de contrôle ont la capacité d'exprimer des molécules signalisantes, donc qui vont sortir et qui vont donner des informations pour organiser la structure. En fait. D'accord ? Et ce que vous voyez ici, c'est une image tout à fait étonnante qui montre une partie d'un organoïde avec cette structure-là que vous aurez sans doute reconnue qui est le plexus choroïde. Vous voyez ici, là, il est coloré avec ce gène TTR que je vous montrais tout à l'heure qui est un gène très, très spécifique pour le plexus choroïde. Et vous voyez en bleu ici l'expression de ce gène WNT2A qui est vraiment le gène important que l'on trouve dans cette région de l'ourlet cortical. Donc, il semble que ces organoïdes soient capables de fabriquer eux-mêmes cette région organisatrice. Donc là, on est dans une chaîne de décision où on a une auto-organisation qui va conduire à la fabrication d'un centre de signalisation qui va conduire à la polarité. Donc c'est vraiment un système autonome, auto-organisé, qui semble fonctionner de façon très étonnante. En plus, cet ourlet cortical, en fait, est placé entre ces régions qui sont positives pour PAX6 et le plexus choroïde, qui est en fait exactement la région dans laquelle il doit se trouver, puisqu'on a le plexus choroïde ici au centre, et puis les régions qui ont des neurones à côté qui expriment PAX6. Donc, c'est non seulement la bonne région, mais elle est au bon endroit. Donc, en conclusion de la production de ces organoïdes, ces mini-cerveaux, en tout cas pour ce papier principal, le papier initial en 2013, publié en 2013 dans Nature, c'est qu'on arrive tout de même à un niveau de complexité étonnant et qu'il semble que ces cellules ES peuvent de façon autonome s'organiser, créer un centre d'organisation, créer des polarités, différencier des types neuronaux qui ressemblent vraiment à beaucoup de types neuronaux qu'on trouve dans le cerveau normal, d'où l'appellation mini-cerveau. Alors évidemment, il y a un problème qui est un problème fondamental avec ces organoïdes, mais qui n'est pas directement lié à ces organoïdes. C'est un problème qu'on retrouve dans toutes les branches de la science. Je dirais peut-être en particulier en sciences de la vie, qui, comme vous le savez, est une discipline un peu molle, c'est la question de la reproductibilité est la question des nombres, de la statistique. Et en fait, il est intéressant de se poser la question sur tout ce que je vous ai raconté sur ces organoïdes. À quel point sont-ils reproductibles ? Lorsque l'on fait des organoïdes, les images que je vous montre, est-ce que ce sont des images qui reflètent la moyenne de ce que l'on obtient, ou bien est-ce que ce sont les meilleures images de l'expérience qui a marché alors qu'il y en a 400 autres qui n'ont pas marché ? Et c'est une question qui, croyez-moi, en biologie actuellement, est une question totalement fondamentale, c'est-à-dire question de la statistique et de la façon de présenter les résultats. Alors, dans le cas de ces mini-cerveaux, c'est assez intéressant de se poser cette question et laissez-moi vous montrer deux images qui sont extrêmement intéressantes, un peu compliquées, mais extrêmement intéressantes. Ce tableau à gauche, là, vous voyez en fait l'axe du bas, l'axe des X, est un nombre d'expériences. Donc, c'est une statistique qui a été faite sur 22 expériences. Dans chacune de ces expériences, un certain nombre d'organoïdes mini-cerveaux ont été produits. Sur l'axe des Y, vous avez une sorte de jugement assez subjectif, en fait, mais un jugement qui est une mesure de la taille du tissu radial se trouvant dans la partie dorsale. Autrement dit, ce qui est fait est la chose suivante. Vous avez un organoïde, vous regardez s'il y a une structure radiale. S'il y a une structure radiale, vous regardez si elle est colorée par des marqueurs dorsaux, donc si vraiment vous pouvez la qualifier de dorsale. Donc c'est une grosse structure dorsale avec un minimum de taille de 400 microns. Pourquoi ? Peu importe, finalement. C'est un critère qui est fixé par les auteurs, simplement pour essayer de standardiser l'analyse. Donc, tout ce qui est au-dessus de 400 microns qui possède une grande partie radiale de type dorsal est comptabilisé en noir. Tout ce qui est au-dessus de 400 microns avec une grande partie radiale qui n'est pas de type dorsal, est comptabilisé en gris. Et puis, quand il n'y a aucune structure radiale au-dessus de 400 microns, c'est comptabilisé en blanc. Donc, si vous voulez, ça reflète l'hétérogénéité de ce type de culture. Vous voyez qu'en fait, ici, il y a 6 expériences sur 22, 6 expériences sur 22, dans lesquelles aucune structure de type formellement dorsale n'est produite. Et vous voyez qu'il n'y a que 4 expériences au cours desquelles 100% des mini-cerveaux produits avaient une grande structure radiale comme celle que je vous ai montrée au-dessus de 400 microns. Donc on a vraiment affaire à des structures qui sont très variables en taille, en contenu. Et vous voyez une autre façon de mesurer ça sur la droite ici, qui est cette fois la comptabilité de la présence ou de l'absence de ces deux centres de signalisation, donc l'ourlet cortical ici, ou l'anti-ourlet cortical ici, dont je ne vous ai pas parlé, peu importe, c'est un autre centre important. Et vous voyez que en rouge, on a ce ferreur, vous pouvez peut-être voir ça mieux que moi, vous avez dans cette partie-là les cas de figure où vous avez l'anti-hem avec les marqueurs, ici les cas de figure où vous avez le hem et les marqueurs, les cas de figure où vous avez les deux hem ensemble, et les cas de figure où vous n'avez aucun hem ensemble. Donc, soit vous avez les deux ourlets présents, soit vous avez les deux ourlets absents, soit seulement l'un, soit seulement l'autre. Et vous voyez que ce fromage est pratiquement un 4 quarts, en fait. Donc là encore, on a tous les cas de figure possibles. On ne peut même pas dire qu'on a une surreprésentation d'un cas particulier. finalement. Donc ce sont des structures très hétérogènes. Alors évidemment, ça pose un problème. Un problème qui est finalement de deux sortes. Il y a un problème qui est un problème fondamental d'interprétation des analyses. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Imaginez par exemple que vous souhaitiez faire une expérience pour voir ce qui fait apparaître ces tourlets corticales. Et vous suspectez une molécule X d'en être la cause. Donc vous allez prendre ces organoïdes et vous allez traiter ces organoïdes avec une molécule X. Et la question que vous posez, c'est est-ce que je vais augmenter la fréquence d'apparition de ces tourlets corticales ? C'est extrêmement difficile à faire cette expérience si vous partez d'un système qui est très hétérogène. Vous allez être obligé de produire un nombre énorme de résultats pour rentrer dans une fourchette qui est statistiquement intéressante. Si vous traitez 3-4 organoïdes avec votre molécule et que vous voyez une différence, vous ne saurez pas si la différence est due à la variabilité interne du système ou bien si vous avez vraiment fait quelque chose au système. C'est un problème qui est fondamental en sciences de la vie. D'accord. Donc, une nécessité de développer ces organoïdes pour essayer de les standardiser au maximum. Ce problème statistique, il est évidemment flagrant, c'est la deuxième raison, dès qu'on va passer à des essais cliniques, à essayer de voir si telle molécule peut essayer de corriger ça ou ça. Là, on ne peut plus travailler avec des systèmes qui ont une telle hétérogénéité. Ce n'est pas possible. Et donc, il y a un souci majeur dans ce genre de discipline, c'est d'établir ce qu'on appelle des SOP, donc des Standard Operating Procedures, donc des protocoles qui soient suffisamment robustes pour que quand vous commencez votre expérience, bien, soyez sûr que 95% de ce que vous allez produire sera à peu près de la même qualité, de façon à ce que si vous en obtenez que 60%, vous savez que c'est un problème qui n'est pas intrinsèque à votre système. D'accord ? Et ça, ça fait l'objet de ce papier extrêmement intéressant de Madeleine Lancaster, qui a essayé, et qui essaye toujours en fait, de développer des protocoles pour rendre ces mini-cerveaux, pour rendre la production de ces mini-cerveaux plus standardisée. Alors, ce qu'elle fait dans cette publication, c'est en fait une combinaison, ici elle dit « here we combine », de deux approches. Une approche qui est typiquement l'approche biologique, si vous voulez, de la fabrication de ces organoïdes, on prend ces cellules, on les met ensemble, etc., mais d'essayer de prendre une approche d'ingénieur pour pousser ces organoïdes vers un destin qui est plus fixé, en essayant soit d'y appliquer des forces, soit d'y appliquer des niches particulières. Et ce qu'ils font dans ce cas particulier, c'est ils rajoutent au protocole un point extrêmement intéressant, en fait, c'est de cultiver ces cellules, donc à l'origine, encore une fois, ces milliers de cellules que l'on va mettre ensemble, ces cellules souches humaines embryonnaires, de les cultiver dans ce qu'on appelle un floating scaffold, c'est-à-dire un système de fibres, mais qui n'est pas fixé. C'est un système de fibres qui flotte. C'est une espèce de tressage qui va donner une matrice à ces cellules pour mieux s'organiser, mais qui n'est pas fixé. Donc, il ne va pas contraindre ces cellules à rester sur un socle. Donc, on va avoir une culture liquide, mais qui est un peu solide tout de même, puisqu'elle contient des sortes de filaments. Alors, ces filaments, ils en essayent plusieurs. Ils essayent, par exemple, de la spongine. Donc, c'est des filaments de type collagène qui sont extraits des éponges de mer. Et puis, ils se fixent sur un type de filament qui est du polylactide coglycolide, qui est un copolymère. S'il y a un chimiste parmi vous, je serais très heureux de savoir à quoi ça correspond, mais ce sont des filaments. Et vous voyez que ces cellules sont co-cultivées avec ces filaments et vont donc s'accrocher. Alors, ils estiment qu'il y a à peu près 5 à 10% des cellules. Alors, elle démarre avec 18 000 cellules, cette fois. Il y a 5 à 10% des cellules qui vont s'attacher à ces filaments et qui donc vont former une sorte de noyau de départ sur lequel les autres cellules vont venir s'agréger. Donc, voilà. À part ça, le protocole est relativement similaire à l'autre. Il y a une signalisation avec la molécule WNT, changement de milieu, insertion, encore une fois, dans une goutte de matrigel, passage en bioréacteur, etc. Mais vous voyez que le résultat est assez différent. On obtient, elle obtient par cet effet, des organoïdes qui sont relativement allongés et qui semblent avoir une structure qui est quand même plus répétitive que la structure des mini-cerveaux que je vous montrais tout à l'heure. Et avant de vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous dire qu'en fait, d'après cette étude, il semble que ce qui est très, très grandement amélioré, c'est la qualité des batchs. Ce n'est pas vraiment la qualité des organoïdes par batch. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une expérience normale, vous allez, par exemple, faire une dizaine de plaques avec 96 wells ou peut-être ensuite passer sur une centaine de cultures en bioréacteur. En fait, c'est le batch de départ qui est très variable. À l'intérieur du batch, les organoïdes sont relativement similaires. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est que les conditions de culture que vous avez lorsque vous arrivez un jour au laboratoire et que vous démarrez l'expérience sont relativement stables. Tous les organoïdes que vous allez produire ce jour-là auront peu de variations, relativement peu de variations. Par contre, si vous faites deux batchs sur deux jours différents, c'est là que les variations vont commencer. Et c'est ce chiffre-là qu'elle peut augmenter. Vous voyez qu'elle passe de 25 à 30% d'organoïdes qui, dit-elle, sont informatifs, donc avec lesquels elle peut travailler, en partant de sphères, donc du protocole classique initial, celui que je vous ai décrit, et ce chiffre monte à 75-80% lorsqu'elle utilise ce système de microfilaments flottants. D'accord ? Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que lorsqu'elle démarre une expérience pour produire des mini-cerveaux à partir de ces systèmes filamenteux, elle sait que à peu près 80% des batchs qu'elle va produire seront informatifs, pourront être utilisés pour faire de la statistique, ce qui est un résultat qui est assez satisfaisant. Alors, comme les organoïdes précédents, ces mini-cerveaux qu'elle appelle ENCORE, pour Engineered, donc des cerveaux, mini-cerveaux Engineered, sont capables de produire toutes les régions qu'on a vues précédemment, forebrain, cerveau antérieur, cerveau postérieur, donc polarité antéro-postérieure, polarité dorso-ventrale, comme je vous montrais tout à l'heure, tout ça est reproduit, mais est reproduit d'une façon plus élégante, plus systématique et mieux architecturée, en fait. Vous voyez ici à gauche un des organoïdes que je vous montrais tout à l'heure. Alors, évidemment, là, puisqu'il s'agit de montrer la supériorité de ce protocole sur celui-ci, on ne va évidemment pas choisir peut-être la photo qui est la meilleure de cette expérience, alors qu'inversement, etc. etc. Donc il faut toujours garder ça à l'esprit, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que lorsque vous cultivez ces cellules en présence de ces microfilaments, vous avez des structures magnifiques que vous trouvez de façon partielle sur ces mini-cerveaux classiques. voyez ici un autre exemple. C'est un N-corps avec le sphéroïde. Donc les sphéroïdes, c'est comme ça qu'elle nomme les mini-cerveaux qui démarrent de ces sphéroïdes, hein, donc simplement de l'agrégation de quelques milliers de cellules OS, comme je vous montrais tout à l'heure. Vous voyez, 9000 ici, 100 microfilaments, et là, 18000 cellules avec microfilaments. Des structures qui sont vraiment magnifiques, hein, on reconnaît des parties corticales. Comment peut-on quantifier cette augmentation de qualité? Ça, c'est une autre question qui est fondamentale en biologie. Oui, ça semble mieux, ça ressemble plus à que ça, mais comment est-ce qu'on peut quantifier? Comment est-ce qu'on peut, sur le papier, avoir des chiffres qui nous permettent de dire oui, ce protocole est meilleur que l'autre? Alors, pour faire ça, ils font une analyse qui est un peu compliquée, mais qui est vraiment intéressante parce que c'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé que j'allais quand même vous la montrer. C'est vraiment ce genre d'analyse que l'on fait aujourd'hui. Et là, l'approche est la suivante. C'est assez simple, finalement. À gauche, vous avez des organoïdes produits selon la méthode classique, sphéroïdes. Et puis, à droite, vous avez des organoïdes produits avec ce système filamenteux. Vous prenez ces cultures différentes et vous faites un séquençage des ARN. Donc vous faites une extraction d'ARN et vous séquencez tout. Alors vous ne faites pas dans le détail, on ne va pas micro-disséquer quoi que ce soit. Simplement, vous prenez plusieurs de ces organoïdes. Sortez les ARN, donc je vous rappelle que les ARN, c'est ce qui est produit par l'ADN et c'est ce qui va produire les protéines, donc c'est la marque des cellules, c'est en regardant les ARN qu'on peut savoir ce que la cellule fait. Donc vous allez prendre tous ces ARN et les séquencer à très haute profondeur. C'est-à-dire que vous allez séquencer pour avoir jusqu'à des centaines de millions de lectures, de reads. Donc vous avez vraiment une représentation très complète des ARN qui sont fabriqués par cette bête et ceux qui sont fabriqués par cette bête. Donc vous obtenez deux datasets très lourds dans votre ordinateur avec la collection d'ARN A et la collection d'ARN B. Ce que vous faites ensuite, c'est que vous allez comparer ces deux datasets. Donc, vous allez demander à votre ordinateur la chose suivante. Vous dites, voilà, tu regardes les datasets A et B et tu me dis tous les ARN qui sont présents dans A qui ne sont pas présents dans B. Ou inversement, tous les ARN qui sont très faibles dans A, très forts dans B. C'est très simple, très compliqué pour l'ordinateur, très simple pour nous. Et puis, l'ordinateur va vous sortir une longue liste d'ARN, en disant, voilà, c'est 3000 ARN, eh bien, je les trouve là, je ne les trouve pas là. D'accord ? Alors ensuite, il faut faire du sens avec ça. Donc, on va poser une question suivante à l'ordinateur. On va lui dire, ces 3000 ARN, ils représentent quelle famille, en gros ? Et c'est ce qu'on appelle une recherche par Go Terms. C'est ce qu'on appelle de l'ontologie génétique. Autrement dit, la machine va regarder chacun des ARN, les classer en famille. Par exemple, sur ces 3000 ARN, peut-être qu'il y en a-t-il 500 qui sont spécifiques de la rétine. Donc, le Go terme, l'ARN, l'ordinateur va dire rétine. D'accord ? Ou bien, y en a-t-il 150 qui sont spécifiques de l'épithélium intestinal. Donc, la machine va dire épithélium intestinal. Et donc, la machine va vous donner toute une série de sous-titres qui, en fait, illustrent les différences qu'il y a entre les deux échantillons. C'est assez simple, dans le fond. Donc, la question que les auteurs posent ici, c'est très simple. Quels sont les ARN qui sont surreprésentés dans ces organoïdes sphéroïdes par rapport à ceux-ci ? Autrement dit, quels sont les ARN ici qui sont sous-représentés par rapport à ceux-ci ? Aussi simple que ça. S'il vous plaît, la machine, donnez-moi la liste des gothermes de façon décroissante, avec le plus fort en haut, etc. Et vous obtenez ce graphique ici, qui alors est absolument clair et simple à interpréter. Vous voyez que cette grande barre bleue ici signifie mésoderme du tractus digestif. Autrement dit, c'est des gènes qui probablement sont spécifiques au mésoderme, donc des muscles lisses qui sont dans les intestins. D'accord ? C'est le gotherme le plus élevé. Ça veut dire que dans ces organoïdes-là, il y a une très grande surreprésentation d'ARN qui sont spécifiques, qui sont indicatifs des muscles lisses de l'intestin. D'accord ? C'est ça ce que ça veut dire. Autrement dit, vous suivez la liste ici et vous voyez mésoderme, squelettal, système squelettique, muscles, rien à voir avec le cerveau. C'est pas. Donc vous voyez que quand vous demandez à l'ordinateur de vous faire la différence, l'ordinateur vous dit en fait, je traduis, l'organoïde de gauche que tu m'as donné là, en fait il ressemble à du cerveau, mais il a beaucoup plus de cellules parasites, musculaires, squelettiques, etc., que l'organoïde de droite qui me semble beaucoup plus cerveau qualifié. C'est ça, en fait, la réponse de ces gothermes. Et ça, c'est une façon qui est une façon relativement quantitative d'estimer la pureté, entre guillemets, la qualité des organoïdes que vous produisez. Donc, à partir de ce genre d'analyse, on peut conclure qu'à ce stade, donc c'est une analyse qui est faite après 20 jours de culture, hein, parce que, attention, si vous refaites la même analyse à 60 jours de culture, probablement que ces gothermes vont s'équilibrer, puisque vous avez vu qu'après une longue culture, même ces organoïdes-là apparaissent vraiment comme un mini-cerveau. Donc, si on va beaucoup plus tard et qu'on refait ce même genre d'analyse, vraisemblablement, on aura une rééquilibration de ces termes. Donc, ce que cette expérience veut dire, c'est que pendant les premiers jours, pendant les premières semaines de développement de ces organoïdes, en fait, on est rapidement mis sur une voie cerveau dans ce cas-là, alors que ces organoïdes-là doivent se battre, en fait, pour faire le tri, pour éliminer des cellules qui ne sont pas vraiment des cellules neurales, puis ensuite commencent à s'organiser, etc. Ce qui peut-être peut expliquer pourquoi ces organoïdes-là sont beaucoup plus hétérogènes que ceux-ci. Ceux-ci sont rapidement mis sur la voie cerveau, neurones, on y va. D'accord. Puis finalement, cette étude montre que la migration des neurones dans ce système de N-core, donc dans ces mini-cerveaux poussés sur filaments, sur microfilaments, est absolument magnifique. Ah bon, vous en voyez une illustration ici. Encore une fois, vous avez la zone corticale en bas, hein, donc vous avez des neurones qui partent, vous avez des cellules souches ici, des cellules qui se divisent pour donner à la fois des neurones qui vont partir, mais des cellules qui restent, hein, c'est le principe des cellules souches. Donc, vous imaginez ces cellules-là qui se divisent et puis des neurones qui partent, qui montent dans les régions corticales. Hein. Et vous voyez, c'est un film, encore une fois, avec cette fois un temps qui est beaucoup plus grand. On est maintenant presque à une cinquantaine d'heures. Et vous voyez ces neurones magnifiques qui sont en train de monter pour atteindre les couches les plus éloignées. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette migration radiale, en fait, a tous les aspects d'une vraie migration qu'on observe pendant le développement, ce n'est pas une migration qui fait hop, c'est des migrations complexes avec des cellules multipolaires qu'on peut voir ici. Et puis, c'est des migrations qui ont des temps d'arrêt, des temps de pause, qu'on appelle des stalling. Vous voyez ici, hein, là encore, la traduction est une sorte de stabulation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais et en fait, vous voyez par exemple ce neurone-là qui est coloré en pourpre, la flèche pourpre ici. Vous voyez, il part, il démarre. Mais là, ah, il reste plusieurs heures, il repart, il redémarre. Et en fait, on peut suivre ces neurones de façon, pas avec les yeux, hein, avec une microscopie, et vous pouvez tracer, vous avez les tracés ici. Vous voyez, je vous ai mis la flèche là, ça correspond à ce neurone-là, c'est ce tracé pourpre. Alors, vous voyez, il démarre ici, voilà le point de démarrage, je m'éloigne, et puis il y a cette longue stase ici, ce stalling. Hein. On ne comprend pas pourquoi, hein. Il reste jusqu'à quelques heures, et puis hop, il repart vers son destin de neurone. Voilà. Je voulais passer quelques minutes pour vous parler de l'utilité, finalement, de ces mini-cerveaux, parce qu'évidemment, ce ne sont pas des structures qui sont produites juste pour le plaisir de les voir, hein, de voir des films avec des migrations. L'espoir est vraiment, pour ces auteurs en tout cas, est vraiment de pouvoir les utiliser pour obtenir des renseignements sur ce qui se passe pendant le développement du cerveau, et puis des renseignements sur, évidemment, des pathologies qui sont des pathologies importantes. Alors, il y a deux cas que j'aimerais discuter. Un cas, rapidement, c'est le cas de la microcéphalie, et puis un cas qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, qui est celui des glioblastomes et des tumeurs du cerveau. Premier cas, c'est un cas qui est reporté dans le premier papier, donc dans la première publication de Knoblich, ce fameux article de 2013. À la fin de l'article, il présente ce qu'on appelle en science, en biologie en particulier, une proof of principle, c'est-à-dire une sorte de preuve de principe, qui est généralement un cas qui n'est pas en soi extrêmement intéressant, mais qui démontre que les choses sont faisables. C'est ça, c'est une preuve de principe. Et pour faire ça, ils utilisent un patient qui est un patient souffrant d'une microcéphalie. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous le voyez immédiatement ici. Patient qui a un encéphale beaucoup trop petit, en fait, qui s'est mal développé. C'est un patient qui a en fait la malchance de porter deux allèles, autrement dit deux mutations différentes dans le même gène, une mutation qu'il a héritée de sa maman, une mutation qu'il a héritée de son papa. Et ces mutations ne sont pas les mêmes, ce n'est pas une mutation qui traîne dans la population et qu'on se repasse de famille en famille. C'est des mutations spontanées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous voyez ici les deux mutations, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des mutations qui remplacent une lettre par une autre. Vous voyez ici un G par un T, c'est par un T, peu importe, mais c'est des très petites mutations qui, toutefois, sont des mutations non-sens. Autrement dit, ce sont des mutations qui interrompent la protéine. Il n'y a plus de sens. Donc ces patients, bien qu'ils aient une mutation extrêmement petite et précise, produisent une protéine qui est interrompue, donc qui ne peut plus fonctionner. Cette protéine, c'est une protéine qui s'appelle CDK5-RAP2, nom un peu pas très poétique, je l'accorde, mais... Et c'est un gène qui donc fabrique une protéine qui est extrêmement importante, puisqu'elle est impliquée dans la fonction, la fabrication du centrosome. Le centrosome, c'est le centre organisateur des microtubules dans la cellule. Et c'est la partie de la cellule qui est donc responsable de la formation du fuseau de microtubules qui va être utilisé pour séparer les chromosomes pendant la division cellulaire. Je vous ai mis une petite image ici, j'ai pris sur Wikipédia. C'est une structure totalement extraordinaire. D'abord d'une grande beauté, mais en plus d'une géométrie, d'une organisation qui est pratiquement mathématique, avec un système de roues dans lesquelles les tubules viennent se planter. Et le résultat, c'est qu'on va avoir formation d'un fuseau de microtubules, une sorte de filet, sur lequel les chromosomes qui vont se diviser vont pouvoir être tirés. Vous avez tous vu des images de mitose, de mitose cellulaire. Les chromosomes vont suivre ces tubules. Donc, l'orientation, la position de ces centrosomes va en fait définir l'axe de division de la cellule. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Si les centrosomes sont ici, vous allez avoir une division comme ça, etc. Alors, ce qui se passe chez ce patient, évidemment, on ne le savait pas. On ne pouvait pas aller voir dans le cerveau de patient l'étiologie, l'origine de ce problème. Et donc, ce qui a été fait, eh bien, c'est maintenant alors, la procédure classique que vous connaissez par cœur, biopsie de peau du patient, culture de fibroblastes, reprogrammation de ces fibroblastes avec ce fameux cocktail de Yamanaka, production de cellules IPS, mini-cerveau, analyse. Voilà, ça c'est la chaîne de, c'est ce qu'on appelle le pipeline, c'est la chaîne analytique qui va conduire du cerveau malade, pas en partant du cerveau, mais du patient qui porte le cerveau malade, à un organoïde de cerveau qui aurait été produit grâce à ces cellules reprogrammées par le cocktail de Yamanaka. Alors vous voyez que ces cerveaux poussent très bien, ces mini-cerveaux poussent très bien. Première remarque, il semble que la quantité de cellules positives pour SOX2, quand on la compare entre le contrôle, ici le témoin, et les organoïdes produits à partir des cellules IPS dérivées, etc., est très inférieure. Pareil pour ce gène des CX2. Donc, conclusion des auteurs, à 30 jours, les organoïdes mutants semblent avoir moins de progéniteurs SOX2 et de neurones DCX. D'accord ? Donc, il semble que, de la même façon qu'on voit le résultat in vivo, quand on fabrique des organoïdes, des mini-cerveaux à partir des cellules de ce patient, les structures produites contiendraient moins de neurones. Alors évidemment, très attention ici, j'ai mis on est sur un cas, donc on retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur le côté statistique. Pour avoir une conclusion valide, il faudrait avoir une centaine de cas, pour avoir vraiment une valeur moyenne, une valeur P, etc. etc. Mais il semble tout de même que ces organoïdes de cerveau aient moins de cellules. Et ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est ce que vous voyez sur la droite. Ce que vous voyez sur la droite, c'est que le plan de division des cellules souches, alors là encore, vous avez le ventricule, la zone ventriculaire ici, en vert, vous avez les cellules qui vont se diviser, ces cellules souches qui vont migrer. Vous voyez que le plan de division de ces cellules, qui est un plan qui est parfaitement horizontal dans le cas normal, est biaisé dans le cas du mutant. Autrement dit, vous avez ces cellules qui sont dans la zone ventriculaire et pour maintenir à la fois leur nombre et pour permettre la migration de neurones, il faut que la division soit totalement horizontale. Et c'est ce qui permet aux poules de rester. Lorsque la division n'est pas horizontale, vous voyez la quantification qui a été faite ici, soit avec un angle entre 30 et 60%, soit avec un angle entre 60 et 90%, ce sont des cas de figure qui ne sont observés que sur les organoïdes mutants. Quand vous faites un organoïde contrôle, c'est 100% de ces cellules qui se divisent de façon horizontale. D'accord ? Donc la conclusion des auteurs est qu'en fait, ce qui se passe dans ce cas particulier, c'est que les divisions mitotiques de ces cellules souches ne se font pas de façon correcte parce que le centrosome n'est pas construit de façon correcte, parce qu'il manque une protéine pour fabriquer le centrosome. Donc celui-ci est biaisé, le plan mitotique est biaisé, et moins de neurones peuvent être produits. Ça, c'est la conclusion. J'aimerais passer maintenant les dernières minutes sur l'utilisation de ces mini-cerveaux pour la question des tumeurs. Alors évidemment, c'est un problème qui est extrêmement important aujourd'hui parce que, comme vous le savez, pour des raisons qu'on comprend assez mal finalement, les tumeurs du cerveau sont très souvent extrêmement agressives avec des pronostics mauvais, en particulier les glioblastomes. Et donc ces auteurs se sont posé la question de savoir si on pouvait éventuellement utiliser ces mini-cerveaux comme outil à la fois pour apprendre de ces tumeurs, pour essayer de comprendre ce qui fait qu'elles sont tellement agressives et de trouver des façons de lutter contre. Alors pour faire ça, ils utilisent une approche qui est une approche un peu brutale et qui est la suivante. Protocole normal, ancien protocole. On fait des sphères, etc., met ça dans un réacteur. Le protocole que je vous ai décrit au début de ce cours pour produire des mini-cerveaux. Sauf que la différence, une différence, c'est que juste avant de rentrer ces sphères dans la goutte de Matrigel, on va y introduire toute une série de gènes, de mutations dont on sait qu'elles peuvent conduire à des états tumoraux. Donc l'idée est la suivante. Est-ce que l'on peut rendre ces organoïdes, est-ce que l'on peut produire des mini-cerveaux qui soient des copies, des modèles de tumeurs du cerveau pour essayer de travailler avec ? C'est ça. Comment va-t-on faire ça ? On va produire des mini-cerveaux qui sont modifiés génétiquement, qui ont les problèmes génétiques que vont avoir les cellules tumorales pour essayer de refaire une tumeur. Le problème, c'est que ces problèmes génétiques, on ne les connaît pas tous, et ils sont très variables. Donc ce que ces auteurs décident de faire, c'est d'avoir une approche brutale, massive, de préparer énormément de ces organoïdes, et puis d'introduire à l'intérieur des cocktails différents, des combinaisons différentes de mutations, de surexpression de gènes, etc. Alors, je vous passe la technologie, ce n'est pas compliqué. Il s'agit simplement de faire baigner ces sphères ici, avant de les rentrer dans le matrigel, de les faire baigner dans une solution qui contient de l'ADN, par exemple de l'ADN d'un oncogène, donc d'un gène qui va provoquer une tumeur. Mettez un petit courant électrique, l'ADN va rentrer dans la cellule, ce qu'on appelle une électroporation, et puis avec une fréquence assez élevée, il va être intégré dans la cellule, fonctionner, voilà. D'accord ? Donc c'est fait d'une façon à haut débit, et la raison pour laquelle ils choisissent cette approche, c'est que dans ces sphères, les futures cellules souches ont tendance à se trouver à l'extérieur. Alors, je ne vous dis pas comment ils en sont arrivés à cette conclusion. Je vous montre simplement ici une expérience préliminaire qu'ils font. C'est simplement d'électroporer un morceau d'ADN qui fluoresce. Et puis, quelques jours plus tard, ils regardent où se trouve la fluorescence. Et ils voient qu'en fait, pratiquement toutes les cellules qui sont fluorescentes sont des cellules qui expriment des marqueurs souches. Évidemment, c'est un prérequis essentiel. Autrement dit, mettez vos cellules ensemble, vous les laissez pousser un peu, vous avez cette sphère. Juste avant de la mettre dans le matrigel, les cellules qui plus tard vont être des cellules souches ont tendance à être à l'extérieur. On électropore ces mutations, elles vont arriver dans ces cellules-là. C'est ça l'idée. Donc c'est des mutations qui vont être bien placées. Ensuite, comment est-ce qu'ils vont trouver les bonnes mutations? Et c'est là le truc intéressant. Ils vont utiliser un marqueur fluorescent qui s'appelle le PCAG-GFP. C'est un morceau d'ADN qui est rentré dans ces cellules. Et quand les cellules prolifèrent trop, ça s'allume. D'accord? Donc c'est un marqueur qui est pas mal utilisé en recherche fondamentale. Donc ils se disent la chose suivante, on va produire des centaines de modifications avec des combinaisons différentes, et puis on va faire une surveillance de la fluorescence, et si par hasard, si par chance, certains de ces organoïdes commencent à se diviser de façon totalement ectique, d'une façon tumorale, eh bien il va y avoir un niveau de fluorescence élevé, notre surveillance va nous le piquer, et puis on peut récupérer les organoïdes. Et c'est exactement ce que vous voyez là. Vous voyez tous ces essais ici avec quelques fluorescences très faibles, etc. Et puis là, vous avez quatre puits où vous avez des organoïdes qui vraiment fluorescent. Donc ils se disent, voilà, dans ces organoïdes-là, ont intégré un nombre de modifications qui fait qu'ils sont maintenant transformés. Ils poussent d'une façon presque tumorale. D'accord ? Alors, ils reprennent ces puits et puis ils regardent qu'est-ce qu'ils ont mis dedans pour que ces organoïdes se transforment comme ça. Et vous voyez qu'en fait, ces quatre organoïdes, alors là, il y a les contrôles, hein, les témoins, vous voyez que le niveau de fluorescence, ces quatre organoïdes, en fait, il y en a cette série d'organoïdes. Il y en a une série qui contient un oncogène très connu qui s'appelle MYC. Vous avez peut-être entendu parler. C'est un gène qui est dérégulé dans l'immense majorité de toutes les tumeurs, en fait. Chaque fois qu'il y a une tumeur, ce gène vient nous pourrir la vie en étant surexprimé. C'est un gène qui est amplifié. Bon. Et puis, il y a trois cas de figure où ils s'aperçoivent qu'en fait, vous ne voyez peut-être pas en rouge ici, ils s'aperçoivent qu'ils avaient rentré dans ces organoïdes un gène très spécifique qui fabrique un récepteur qu'on appelle le récepteur à l'EGF, EGFR, récepteur à l'EGF. Et ce récepteur à l'EGF, c'est en fait... Voilà, vous avez les deux cas de figure, deux qui ont des récepteurs à l'EGF. Il y a trois de ces groupes, en fait, qui ont des mutations qui correspondent à des mutations que l'on trouve normalement dans des glioblastomes. Et dans ces trois groupes, il y en a deux qui contiennent le gène qui code pour le récepteur à l'EGF. Alors, un tout petit mot sur ce récepteur EGF. EGF, c'est donc le epidermal growth factor, c'est un facteur de croissance qui fait pousser les cellules, qui a été découvert avec ces récepteurs par Rita Levi Montalcini et Stanley Cohen, qui ont eu le prix Nobel pour ça en 1986. Et les récepteurs à cet EGF, en fait, font partie d'une famille de quatre membres qu'on appelle ERBB. Il y a ERBB1, B2, B3, B4. Ce sont des récepteurs que vous, vraisemblablement, que vous connaissez ou que je vous souhaite de ne pas connaître. En fait, puisque tous ces récepteurs sont d'une façon ou d'une autre liés à des tumeurs particulières. Et celui qu'on connaît le mieux, ou dont on entend le plus parler, c'est bien entendu RB2, donc HER2, qui est impliqué dans un très grand nombre de tumeurs du sein. Et en fait, c'est contre ce récepteur particulier qu'a été développé cet anticorps qu'on appelle l'herceptine, qui a vraiment un progrès extraordinaire dans le traitement de ces tumeurs, c'est pour simplement empêcher ce récepteur de fonctionner, qui fonctionne alors qu'il ne devrait pas fonctionner. Ce sont des récepteurs tyrosine kinase, autrement dit, ce sont des protéines qui traversent la membrane cellulaire, et quand vous venez les activer par un ligand EGF, ils bougent à l'intérieur de la cellule et ils vont kinaser, donc rajouter un groupe phosphate sur des protéines qui vont déclencher toute une série de problèmes qui vont faire pousser la cellule. Alors, des mutations dans les récepteurs EGF, on en voit dans pratiquement 30% des cas de tumeurs épithéliales. Je vous ai indiqué ici, c'est très typique des adénocarcinomes des poumons, ce qu'on appelle les head and neck tumors, donc les tumeurs de la face et de la gorge, du cou, et puis, bien entendu, des glioblastomes. Et donc, la dernière chose que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est l'expérience suivante, qui est de voir si ces organoïdes qui semblent avoir été transformés, qui semblent maintenant avoir une croissance tumorale qui ressemble à ce qu'on voit dans des glioblastomes, est-ce qu'ils vont répondre à des molécules qui sont actuellement en essai clinique pour traiter des glioblastomes. J'en ai mis une ici qui est l'afatinib, qui est un inhibiteur de ERBB1, donc du premier récepteur de EGF, qui actuellement est en essai clinique. Alors vous voyez ici les quatre groupes que je vous ai montrés tout à l'heure. Ces mini-brains, ces organoïdes sont traités avec de l'afatinib, 40 jours, et on regarde ce qui se passe. Et vous voyez que dans les deux cas, dans le groupe 1 et le groupe 3, qui sont les deux cas où on trouve effectivement une mutation dans le récepteur EGF, dans ces deux cas-là, on élimine la fluorescence. Autrement dit, dans ces deux cas, on arrive avec cette molécule à stopper la prolifération. Alors que dans les deux autres cas, le cas de MYC ou le cas celui-ci où on n'a pas affaire à un état tumoral qui est dû au récepteur à EGF, on voit que cette molécule n'a aucun effet, ce qui est totalement attendu, d'ailleurs, puisque ce n'est pas dû au récepteur EGF. Donc la conclusion de ces auteurs, c'est que, en fait, on peut probablement commencer à penser, utiliser ces types d'organoïdes, de mini-brains, pour voir peut-être qu'est-ce qui se passe quand on traite ces cellules avec ces molécules. Quels sont peut-être les effets secondaires? Quelles sont les autres voies que l'on va affecter? Ce sont des systèmes meilleurs que des systèmes cellulaires. Rappelez-vous ce que je vous disais au premier cours. On souffre depuis plusieurs dizaines d'années de ne pas avoir de système cellulaire pour faire ce genre d'expérience, parce que les cellules cultivées en monolayer ne répondent pas à ce genre de choses. Donc, on a ici un espoir, peut-être, de pouvoir analyser un peu mieux, de pouvoir faire des criblages, de voir quelles sont d'autres molécules meilleures, plus précises, moins agressives, etc. etc. Je termine ce cours, avant ma diapositive sur l'éthique, je termine ce cours avec ce schéma que j'ai trouvé très intéressant, qui a été publié par Madeleine Lancaster et Denis Jabaudon, qui travaillait à Genève, qui dit oui, effectivement, ces organoïdes cérébraux sont des mini-cerveaux, mais ce ne sont pas des mini-cerveaux. Et le fait que ce ne soit pas des mini-cerveaux n'est pas un problème, en fait. Ça peut être même un avantage. Ça peut peut-être faire découvrir d'autres paysages. C'est ce qui est illustré ici. On peut comparer maintenant un organe sain avec un organoïde sain. C'est ce qu'on a fait la semaine passée. Un organe malade avec un organoïde malade. Je vous en ai montré aujourd'hui. Un organe malade avec un organoïde sain. Il y a des tas de paysages là-dedans qui sont des paysages nouveaux et qui vont peut-être permettre de faire avancer la connaissance. Alors évidemment... Évidemment, c'est un domaine qui est assez chargé en termes de discussion éthique, sociale. Et j'ai pensé vous montrer cette diapositive. Vous allez comprendre pourquoi, pour un point qui est d'extrême actualité en France actuellement. C'est un des très, très nombreux articles. Ce n'est pas le plus intelligent, je dois dire, mais c'est un article qui vient du The Independent, qui est un journal online maintenant, et qui s'est posé la question récemment, en 2018, sur le développement de ces organoïdes de cerveau. parce qu'évidemment, beaucoup de personnes se posent la question de savoir si on va, comment qualifier, jusqu'où va-t-on aller si on arrive à développer un mini-cerveau qui commence à réfléchir, à sentir les choses. Bon. Alors, vous voyez ici une citation de Rusty Gage, qui est un scientifique très connu à l'Institut Salk aux États-Unis, qui dit, d'un autre côté, j'ai été suffisamment longtemps dans ce business, en fait, pour savoir que ce n'est pas vraiment les faits qui comptent, c'est la perception que les gens en ont qui est intéressante, qui est importante. Voilà. Mais le point que je voulais faire, c'est celui-ci. C'est un point extrêmement intéressant. C'est un collègue qui s'appelle In-so Hyun, qui est un éthicien, et qui dit la chose suivante. Qui dit aujourd'hui, on utilise le cerveau comme un marqueur, finalement, comme un des marqueurs de fin de vie. On parle de mort cérébrale, par exemple. Donc, on utilise l'activité du cerveau comme un marqueur de fin de vie. Et la question qu'il pose, c'est, il dit, mais quand va-t-on, ne devrait-on pas, de la même façon, utiliser le cerveau comme un marqueur du début de la vie? Par conséquent, comment qualifie-t-on un cerveau? Est-ce que c'est une qualification fonctionnelle? Est-ce une qualification électrique? Est-ce que c'est une qualification de conscience? Ce sont des questions qui sont extrêmement intéressantes, en fait, parce que soudainement, on passe d'un domaine qui est purement technologique, avec des facteurs de croissance, des cytokines, des chiffres, etc., dont je vous parle à l'envi depuis 4 semaines, et on s'aperçoit qu'on a insensiblement débarqué dans un domaine qui est un domaine différent, en fait. Et, savoir, mais est-ce que là, on ne rentre pas dans une zone où on doit commencer à réfléchir de façon peut-être un peu plus globale. Et j'aimerais terminer ce cours aujourd'hui avec ces deux dernières citations. Une d'un collègue de San Diego, Alison Muotri, un scientifique très inventif, disons comme ça, qui essaye de produire des organoïdes en introduisant dedans des mutations, des polymorphismes que l'on a trouvés dans le génome de Néandertal, pour voir si ces organoïdes, ces mini-brains, seraient de quelque façon différents des autres. Et vous voyez ce statement ici qui est absolument invraisemblable, à mon avis, où il dit... des résultats non publiés. C'était en 2018, et j'ai vérifié, ils ne sont toujours pas publiés, ces résultats, mais il dit qu'il semble que ces organoïdes, au lieu d'être sphériques, sont lumpy, là, comme des pop-corns. Hein. Donc, ce qui... Alors, peut-être y a-t-il une interprétation du journaliste, mais il dit, en fait, quand je produis un organoïde de cerveau à partir... de cellules qui ont quelques modifications que l'on trouve dans le génome de Néandertal, le cerveau ressemble à un pop-corn. Voilà, c'est là où nous en sommes, et on revient à la citation de Rusty Gage qui dit, je pense que c'est extrêmement important de considérer que les faits, finalement, ne sont pas si importants. C'est surtout la perception que les gens en ont, et je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Et laissez-moi terminer sur une note plus poétique où je vois ici que dans ce laboratoire de Dr. Yoon, ils ont souhaité chanter le bon anniversaire à un organoïde qui venait de passer une année de culture. Je vous remercie, à la semaine prochaine.